Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Au programme cette semaine, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous aurons de l'IndyCar, puisque oui, l'IndyCar va se produire à Indianapolis. Incroyable, l'IndyCar mais vrai. L'IndyCar fait sa rentrée, enfin la seconde rentrée. Hein, quatre semaines après la première, oui c'est ça, c'est un rappel, mais un rappel très tardif. Mais bon, c'est pas grave, on va en parler, puis il y a deux, trois petites infos aussi à dire sur l'IndyCar, on a les horaires notamment, et puis on vous parlera de la NASCAR avec Pocono, avec la pluie aussi, parce que bah, c'est devenu une tradition en fait, et puis on parlera aussi d'Indianapolis, puisque c'est Indianapolis qui arrive au calendrier de l'IndyCar pour la Cup, et ce sera sur l'Oval. Pour parler de tout ça, vous avez reconnu leur douce voix pendant cette introduction, Aloïs, salut Aloïs.
Salut Geoffroy, et bonjour à tout le monde.
Et Lilian, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Alors, l'IndyCar, messieurs, Indianapolis, c'est ce week-end. Indianapolis sur le circuit routier, la première des trois courses que nous aurons cette année à Indy, Lilian. La course routière qui est, depuis son instauration au calendrier, je vais y arriver, la propriété de la team Penske, hein, globalement. Will Power, Simon Pagenaud et après le déluge.
Oui, voilà, c'est malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. T'as tout dit. C'est la Penske. L'an dernier, Pagenaud, ça a été la première étape de son grand chelem.
Oui, comme Will Power il y a deux ans.
Le circuit routier, la pole pour l'Indy 500, et puis bah, la victoire, comme tout le monde le sait. On verra si bah, il retrouvera les ressources pour accomplir le même exploit que l'an dernier.
Effectivement, dans des conditions particulières, mais un programme quand même sur deux jours en IndyCar, avec une séance d'essai le vendredi, avec les qualifications en fin de journée, enfin au milieu d'après-midi plutôt, et le samedi, le warm-up et la course, enlevé de rideau de la NASCAR. Ça paraît quand même assez dingue à dire que l'IndyCar est en levée de rideau de la NASCAR dans le contexte actuel, avec Roger Penske ayant racheté l'Indianapolis Motor Speedway, l'IndyCar, tout ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Aloïs, je t'ai entendu sourire. C'est drôle, quoi.
Bah ouais, surtout la formulation en levée de rideau. Bah. Et c'est, en vrai, c'est un peu l'impression que ça donne. Surtout de la manière où tu as trouvé les informations pour introduire ce week-end en IndyCar. Ben, ça veut tout dire.
Effectivement.
Désolé, ça veut tout dire que l'IndyCar est relégué en seconde position.
Après, c'est un running gag, le média de l'IndyCar, puisque c'est grâce aux médias de l'IndyCar, en général, enfin, aux médias des séries, qu'on a les horaires fiables.
Sont informés là-dessus.
Les horaires fiables avant la pluie, on les a sur le média de l'IndyCar ou de la NASCAR, en l'occurrence. Mais il s'avère que bah, nous sommes mardi soir, au moment de l'enregistrement de l'émission, on va trahir un petit secret, qui n'en est pas vraiment un. La liaison, elle est pourrie d'ailleurs, mais on le dira pas. Bref, et l'IndyCar n'a toujours pas communiqué, ni les horaires, ni les engagés, ni rien du tout. Alors que la NASCAR, on a déjà les horaires, les engagés, et c'est sur le média de la NASCAR qu'on a les horaires de l'IndyCar. Je trouve ça toujours aussi fameux quand ça arrive. Ça arrivait par le passé quand il y avait l'Iowa en Xfinity et l'IndyCar, pareil sur l'Iowa, ou quand c'était avec la truck entre l'IndyCar et... c'est ça, entre l'IndyCar et la truck au Texas. Ça arrivait parfois qu'on puisse avoir les horaires comme ça, mais je trouve ça toujours aussi fameux et toujours aussi drôle de se dire qu'il y a une course week-end et que l'IndyCar n'a toujours pas communiqué les horaires et qu'il faut aller sur le site de la NASCAR. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ceci étant, parenthèse refermée, messieurs. Les horaires, ben, vu qu'on en parle, on va les donner. Il y a une séance vendredi d'une heure et demie, de 11h30 à 13h. C'est ça. Les qualifications qui sont à 16h30. Ensuite, le warm-up avec l'entraînement des... Comment ? Au ravitaillement, qui est le samedi matin de 9h à 9h30. Et la course qui est à midi, 85 tours, 200, un peu plus de 207 miles. Les pilotes qui sont appelés au monoplace à 11h45, la course est à midi. L'heure du drapeau vert, faut pas pousser, hein, on les a déjà pas pour la NASCAR, on va quand même pas les avoir pour l'IndyCar. Mais voilà, autour de midi quelque chose, donc autour de 18h quelque chose en France. Donc, et ce sera avant la Xfinity qui aura lieu dans la foulée, toujours sur le circuit routier, et la Cup le lendemain, juste sur l'ovale. Voilà un petit peu pour les horaires. Lilian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce circuit routier d'Indianapolis? Sinon, que bah, c'est le même pratiquement, je crois, depuis son instauration, avec la petite chicane à la fin, oui. Et qui est dans le sens inverse de l'ovale.
Alors, c'est pas par rapport au circuit que j'aurais une chose à dire, c'est, je trouve plus que, comment dire, je trouve que c'est dommage que l'IndyCar, enfin que la course d'IndyCar n'ait pas lieu le dimanche, le même jour que la NASCAR, mm-hmm. Parce que mettre l'IndyCar en levée de rideau de la NASCAR, mais de la division 2, c'est même plus mettre l'IndyCar au second rang. C'est pire que ça.
C'est le petit astérix en bas de l'affiche 4x3 du spectacle.
Bah oui,
quoi.
C'est vrai que Louise faisait référence à ça il y a quelques minutes. J'ai pas forcément relevé. Mais oui, c'est en préambule de la Division 2, pas de la Cup.
Et oui, faut juste savoir quand même que le temps estimé pour passer de la configuration circuit routier à circuit ovale, c'est 90 minutes. Donc je veux dire, ça laisse le temps d'une petite averse et de pouvoir sécher la piste en même temps, quoi.
Ouais, et puis une course d'IndyCar, c'est quoi? C'est entre 1h30 et 2h, pas plus.
Bah c'est, en gros, c'est 2h max, hein.
Oui, voilà, c'est ça. Dire,
la course de l'Indy GP, c'est pas là où on a le plus de drapeaux jaunes non plus.
Oui, en général, oui.
Quand... Une fois le premier virage au départ passé, on est tranquille.
Presque.
À moins de s'appeler Takuma Sato.
Ça c'est fait, voilà, voilà un petit peu. Donc pour la partie IndyCar à Indianapolis en compétition, puisque il y a quand même une autre information, messieurs, concernant Indianapolis, c'est la Chip Ganassi Racing qui engage un pilote la semaine prochaine en essai, un pilote très connu, mais qui ne vient pas de la NASCAR, Lilian, même s'il a déjà fait de la NASCAR, en tout cas sur simulateur, qu'il était Austin, Texas. Oui, il vient pas de l'IndyCar. J'ai dit quoi comme connerie?
Bah, NASCAR. Il vient pas de la NASCAR.
Ah bah si.
Il
a
fait de la NASCAR.
On n'a pas du tout entendu parler. Inconnu au bataillon, je sais pas qui c'est.
C'est ça, bref.
Il y a des 7 titres, mais il a pas fait de NASCAR.
C'est ça. Bon, vous avez compris, j'ai fourché. On parle tellement peu d'IndyCar que bah, j'arrive plus à prononcer ce terme sans ripper.
C'est-à-dire un néologisme.
C'est ça. Donc, on parlait de Monsieur Jimmy Johnson, septuple champion NASCAR, qui, pour le coup, va enfin pouvoir tester en réel une monoplace d'IndyCar. Il était du côté d'Austin, au Texas, lors des essais de pré-saison au mois de février. Il avait ensuite fait mouler un baquet chez Arrow, McLaren, SP, Schmidt, je sais pas comment, rajoute des noms machin à la con Racing. C'est un peu ça le nom de l'équipe, non?
À peu près. peu de choses près, c'est ça.
Un peu de choses près. Il y a peut-être un petit peu un truc en trop, mais voilà. Et donc finalement, il va chez Chip Ganassi pour une séance d'essai. Et la Ganassi a le droit, puisque ça rentre dans le cadre de l'IndyCar, de tester et d'évaluer un pilote.
Bah après, c'est une nouvelle sans en être une. Hein. Il avait déjà évoqué son intérêt,
oui,
pour l'IndyCar à l'issue de sa dernière saison en NASCAR. Mm-hmm. Après, bon, voilà, on s'était pas forcément officialisé avec la Ganassi.
Non.
Donc, à faire, s'il peut avoir du bon matériel pour rouler en IndyCar, pourquoi s'en priver?
Et est-ce qu'on pourrait imaginer un renvoi d'ascenseur pour Scott Dixon qui testerait une voiture Hendrick?
Sur ovale ou sur routier?
Je sais pas. Il pourrait le faire sur une voiture Ganassi, hein, vous me direz, mais... Bon, tu vois, histoire d'avoir un petit retour d'ascenseur sympathique entre deux des plus grosses écuries Chevrolet.
Est-ce
c'est
que.
pas comme s'il n'avait pas l'habitude des ovales, hein.
Est-ce que c'est un souhait de Dixon de rouler en NASCAR?
Non, non, pas plus que ça, mais c'est une question que je pose, c'est une question ouverte. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un retour d'ascenseur quelque part? Parce que c'est étonnant quand même, finalement, d'aller dans une écurie concurrente de la Hendrick en NASCAR. Tu vois, on aurait pu imaginer chez Arrow McLaren SP. Il n'y a pas de lien avec la NASCAR. Andretti, il n'y a pas de lien avec la NASCAR. Bon, Andretti est Honda de mémoire, donc ça ne l'aurait pas fait. Quoique, Ganassi, ils sont pas Honda. Si, Ganassi, ils sont Honda aussi.
Ils sont repassés chez Honda
Oui, ils sont
maintenant.
repassés chez Honda. Donc, ouais, tiens, voilà, c'est encore une petite aberration qu'on retrouve là.
Mais outre la motorisation, ça n'empêche pas la Ganassi de nouer une sorte de partenariat avec la Hendrick. Et
Oui.
puis, c'est pas comme si l'ancien compère de Scott Dixon, un certain Dario Franchitti, avait essayé la NASCAR il fut un temps.
Oui, bien sûr, non, mais voilà, c'était pour la petite boutade. C'est vrai
Moi,
que
ça me
c'est.
surprendrait pas, pour être honnête. Et ce serait vraiment dommage que Scott Dixon soit contenu à un routier. Je pense qu'il pourrait vraiment tester une voiture sur un ovale. Puis il a l'habitude, ça fait pas comme si ça fait 15 ans qu'il conduisait sur des ovales.
C'est vrai.
Mais tu le vois comment tu le vois débuter en NASCAR en Cup? Il commencerait peut-être pas dans une voiture de la JR Motorsport sur Xfinity?
Demande à un certain Alex Davison, je vais te dire, hein. Lui, il n'a aucune expérience d'ovale et pourtant, pouf, il est télescopé directement en cup, hein.
C'est ça, et à Pocono.
Et à Pocono, bon, ça devait être Talladega au départ en plus.
Oui,
Mais
mais bon.
la NASCAR a dit non.
Oui, heureusement.
Heureusement.
J'ai rien contre James Davison, hein, mais.
Non, bah, moi non
James
plus.
ou Alex? J'ai dit Alex.
Oui, t'as dit Alex et j'ai dit James
Mais c'est James.
parce
Autant
que
pour
ça
moi,
me
ça fait
plaisait
James.
plus James que Alex. Donc oui, c'est bien James Davison dans la 77.
James Davison qui vient du Supercars.
Ouais, c'est ça. Donc, on devait avoir un autre pilote de Supercars à Indianapolis sur le routier. Il s'appelle Scott McLaughlin, mais le coronavirus est passé par là.
Ah mince.
Donc,
Pas connu du tout non plus celui-là.
non, et puis, pas comme s'il avait fait chier tout le monde, quoi.
Bah
Donc.
surtout toi pour tes pronos.
C'est pas grave, c'est pas grave, on va s'en remettre.
C'est pas grave.
C'est pas grave. Messieurs, autre petite info, IndyCar, parce que vu qu'on a parlé d'IndyCar, enfin voilà, on a mis le jingle, autant essayer de faire un peu plus de 2 minutes. Fernando Alonso, qui a révélé avec son équipe sa monoplace numéro 66 pour les 500 miles d'Indianapolis.
Superbe sponsor.
Ouais, bah vas-y, je te laisse décrire un truc moche, Lilian.
Toujours.
Bah, c'est très vert et blanc, quoi.
Bah oui, c'est sûr que celle qu'il avait utilisée il y a 3 ans était un peu plus voyante.
Ah, la orange et bleue étaient magnifiques.
Celle d'il y a 2 ans, elle était voyante, mais jusqu'au qualif. Enfin,
Ah,
non, l'année
non,
dernière.
c'était il y a 3 ans qu'il avait abandonné après une bonne course.
Non, mais oui, mais c'est celle où il s'était pas qualifié. Elle était voyante, mais que jusqu'au qualif.
Oh, ça va, le vert, moi, je suis pas. Je crains pas, hein. C'est des couleurs qui ont tendance, moi c'est
Ouais,
mes
oui,
couleurs.
c'est le vert, c'est tendance à Lyon, hein.
Ah oui, surtout.
Oui,
Et aussi à Strasbourg,
il y a beaucoup.
apparemment. On devrait être sur la même longueur d'onde.
Ou pas. Faut pas déconner non plus.
Oui, non, il y a... oui, les rétros sont orange, il y a le dessus de l'aéroscreen qui sont ouais, bleu, bleu très très clair.
Bah,
Limite
c'est du goût du
turquoise.
Ricardo, quoi.
J'appelle ça vert, mais bon, après.
Moi,
Voilà.
ça ne me
Ouais.
dérange pas. Je trouve que l'alliance des couleurs est plutôt bien sentie et c'est des couleurs qui sont complémentaires. Et puis après, le reste blanc, ça reste épuré. Moi, ça ne me dérange pas.
Après, on s'en fout de ce qui est écrit dessus, hein, tant que ça gagne.
Oui, enfin, c'est ce que lui il pense, oui. Après, on verra.
T'attends, Marc Martin, son sponsor en NASCAR, c'était pas ça, hein.
C'est vrai. Alors, voilà un petit peu, je pense, pour la page IndyCar, monsieur. On a fait le tour, on a fait un quart d'heure, c'est déjà énorme.
Oui. Et Geoffroy va débuter par son j'aime pas.
Le j'aime pas concernant la course de Pocono. Le vainqueur de la seconde course, Denny Hamlin, en interview, sans masque, bravo. Je trouve ça beau, c'est grandiose.
C'est quasiment le cas tous les
C'est
week-ends.
le cas tous les week-ends.
Et en même temps, j'y pensais, en sortant de la voiture, ils n'ont pas forcément leur masque à portée de main.
En général, si, ils l'ont.
Si.
Si, si, ils l'ont. Bah, ils ont bien la casquette. Tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas mettre le masque avec.
Ils ont toujours la casquette, même quand ils se plantent. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Et surtout qu'en plus, c'est pas comme si le masque de Denis Hamlin était super fun.
C'est quoi, c'est un masque noir qu'il a, c'est ça?
Non, c'est un masque où t'as un mec où tu vois toutes les dents, quoi. C'est le mec,
À la Dell Junior avec ses gants, il y a quelques années.
Ouais, c'est le mec qui sourit comme un con. Mais c'est assez drôle.
C'est la mâchoire de Brad Keselowski, non?
C'est ça, effectivement. Me semble-t-il. Et mon j'aime, figurez-vous, mesdames, messieurs, hormis le fait que j'avais annoncé qu'il allait pleuvoir à Pocono, que ce serait très très drôle, en mars dernier, au moment de la publication du calendrier, figurez-vous que la semaine dernière, on a appris que Lilian avait acheté un grand écran. Donc maintenant, il peut voir la pluie en grand quand il regarde la NASCAR, c'est beau. On n'est plus obligé de lui dire qu'il pleut, c'est grandiose.
Ah, le petit con.
Ah, j'adore le j'aime, ça va, tu ne l'as pas piqué.
Et le second j'aime, je vais trahir un autre secret, ça concerne Aloïs. Et ça concerne aussi Lilian. La semaine dernière, à l'issue de l'émission, Lilian il nous demande « C'est quoi la distance à Pocono des deux courses ?» Et Aloïs a répondu « 2 mètres ». J'ai trouvé ça magique dans les circonstances actuelles. Voilà. Voilà, donc tous les deux...
Ah oui, j'avais oublié.
Voilà, tous les deux, vous avez mangé. À votre tour, Lilian.
Hashtag distanciation sociale.
C'est vrai. Lilian, vas-y.
Eh ben écoute, allez. J'aime sarcastique. Parler de politique avec vous deux dimanche soir. Bon, t'as un peu teasé avec les verts tout à l'heure.
Ah, t'étais un peu vert quand même qu'on en parle. Hein.
Un petit peu, ouais, carrément même.
Et toi, j'aime pas?
Non, je vais remettre un j'aime. J'ai adoré la manœuvre de Bubba Wallace pour éviter Ryan Preece en perdition à Pocono. Et puis sa réaction après était juste énorme, quoi. Il était mort de rire dans la voiture.
C'était surtout la réaction qui m'a bien fait marrer, j'avoue.
Et puis le replay, enfin, tu vois que la voiture, elle décolle. Enfin, tu vois que la piste, c'est un terrain de motocross sur le côté, quoi.
Ah, à cet endroit-là, Pocono, oui, c'est hyper dangereux.
C'est... Et puis je vais en rajouter un troisième, quand même. Blenny qui balance Kyle Busch, alors ça, j'adore.
Mais le plus énorme, c'est qu'on n'a pas de vidéo.
Si, j'ai mis une vidéo sur le site.
Ah, ok. Bah sur la pendant la course, ils en avaient pas trouvé.
Bah non, il a fallu changer d'angle, c'est un spectateur qui était là qui a filmé avec son smartphone.
Et apparemment en parlant de vert, c'est Kyle Busch qui était vert après l'accident.
Ah bah tu m'étonnes. Aloïs, ton j'aime et ton j'aime pas, ou tes j'aime ou tes j'aime pas, j'en sais rien parce que maintenant tout le monde fait ce qu'il veut.
Ouais, c'est libre.
Mon j'aime, c'est... alors déjà, je regarde, on va être honnête. Je regarde pas énormément de courses d'Xfinity.
Bah oui.
Mais j'aime quand je branche une course d'Xfinity, que j'arrive à la plage. Que je suis arrivé le jour devant une course, j'arrive et là, je vois le turn one,
yeah.
Le sable. Je dis, ok, c'est déjà les vacances, j'ai pas tout compris.
Il y avait du sable, ouais, c'est clair.
Il y avait un tout petit peu de sable et ils ont surtout mis quoi, une demi-heure pour balayer le sable.
C'est ça, en fait, t'es arrivé pendant le drapeau rouge, tu te dis, merde, il pleut pas, mais il y a un drapeau rouge, qu'est-ce qui se passe?
Exactement. Et en fait, ils avaient sorti la plage, tranquillou, bilou, l'officiel de NASCAR qui s'amusait à trouver son petit coin sur la plage, où est-ce que je vais pouvoir poser ma serviette. J'ai bien aimé.
C'est ça.
Aloïs, il envoie des messages samedi soir pour la Xfinity, j'ai pas compris. Ouais.
Non, c'était dimanche soir, c'était vers 19h.
Oui.
Oh, mais même.
Bah oui. Même. Et ton j'aime pas, ou ton second j'aime, ou enfin, ou je sais pas quoi. Il n'y en a pas, d'accord, ok.
Non, j'en ai pas, mais j'aurais pu mettre un autre j'aime sur la réaction de Bubba Wallace, j'avoue que c'était top.
Ok. Allez, la NASCAR à Lilian, on l'a dit et redit, c'était à Pocono. Ça a failli ne jamais avoir lieu. On a quand même réussi à caser 4 courses de série nationale en 2 jours à Pocono, en intégralité.
On peut brûler un cierge.
Oh bah même.
Combien ils en ont brûlé pour dimanche?
Oh là, c'est pas un cierge qu'il faut brûler, hein. Tu peux monter au carton, hein. Je veux dire. c'est assez dingue quand même, parce que ça partait quand même très très mal. C'est pas comme si on l'annonçait depuis l'année dernière.
Non mais le début de journée était très beau. On a eu la truck, la Xfinity, il n'y avait pas de problème.
En fait, c'est la cup le problème.
Et c'est la cup, ouais, c'est pour la cup que ça s'est gâté, ouais.
Mais un truc de fou. Et encore une fois,
je crois bien que c'est les étincelles que la Xfinity a fait sur la piste. Ça a créé des orages, je pense. Et du coup, ça a porté la pluie par la même occasion.
Mais c'est fou. Enfin, il y a la stat qui est passée dans la course, dans la seconde course pour le coup. 15 épreuves cette année, 9 qui ont été interférées par la pluie. Et donc, je crois du coup que ça doit faire 8 depuis la reprise. 8 sur 12, quoi. Mais non, c'est... au moins maintenant on a compris. En 2020, c'est le calendrier aux limites. On sait qu'il ne faut pas aller à Pocono fin juin. On sait qu'il ne faut pas aller à Talladega fin juin non plus.
Daytona, la même chose.
Voilà, en 2021, on va avoir un calendrier encore une fois tout chamboulé. Puis ils vont essayer d'autres dates pour être sûr qu'il ne pleuve pas, quoi. C'est...
Ah, ils n'ont qu'à courir pendant l'hiver et ils n'ont qu'à se reposer pendant l'été. Tout le monde sera content.
C'est ça. Mais attends, faut quand même avouer, c'est quand même un truc de dingue cette année. Depuis Darlington, ça n'arrête pas. On avait déjà eu en prémisse Las Vegas, il y avait eu de la pluie, si je me souviens bien.
Oui, déjà Las Vegas, pluie, c'est peu probable.
C'est ça, c'est déjà assez antinomique de base. Mais enfin là, cette année, c'est un truc de fou. Et à Pocono, enfin, quand on en parlait l'année dernière et même la semaine dernière, c'était en rigolant. Mais force est de constater que malheureusement, on a encore eu raison. Que à Pocono, la météo est toujours capricieuse à cause des montagnes qui sont à côté. Et encore une fois, ça nous a joué des tours. Et encore une fois, on a des courses. Il pleut à Pocono. Enfin, t'as pas d'éclairage artificiel suffisant pour avoir une course en nocturne. Ta course, elle est rentrée au chausse-pied en termes d'horaire. Hein. Je crois que...
Il faisait bien sombre.
À une demi-heure près, il pouvait pas finir la course.
Hein. La course, elle se termine après le coucher de soleil officiel. Elle se termine 5 minutes après. Et par contre, c'est super sympa pour les pilotes d'arriver dans le virage 2 avec le soleil couchant, quoi. L'un des virages les pires qui soient sur le calendrier NASCAR, t'as bien le soleil couchant bien dans les yeux au moment de braquer. Sympathique.
Oh, c'est peut-être l'excuse de Ryan Blaney au final, hein.
C'est vrai.
Ah ouais, c'est ça. Ah, oui.
J'ai pas vu Kyle Busch, il y avait le soleil.
Effectivement, Ryan Blaney qui sort Kyle Busch dans le virage 2 de la seconde course. Mais chronologiquement, on avait quand même la première avant, messieurs, avec Kevin Harvick qui a mis fin à 38 courses sans victoire à Pocono.
Il avait resté sur 4 deuxième places.
Bah, il avait 4 deuxième places à Pocono, maintenant il en a 5. Puisqu'il en a ajouté une autre.
Autant la deuxième, ouais.
C'est ça. Kevin Harvick, du coup, qui s'est imposé samedi, devant Denny Hamlin. Donc, Kevin Harvick, Denny Hamlin, enfin, qui étaient les deux hommes forts, globalement, de tout le week-end.
Oui, puis à ce moment-là, à la fin de la première course, il égalise, en termes de victoire sur la saison,
ouais.
Justement, avec Denny Hamlin à 3 partout.
Exactement. Il égalise à 3 partout. Et enfin, il n'y avait rien de... Enfin, une très belle stratégie, et il n'y avait rien de volé dans la victoire de Kevin Harvick. Stratégie totalement payante, et encore une fois, bien vue de son chef d'équipe, Rodney Childers.
Et surtout, c'est la première victoire de Kevin Harvick à Pocono dans sa carrière.
Oui, c'était il y a 5 minutes, on vient de le dire, mais oui, t'as raison de le préciser.
Ah bah, on parle de la première course, on précise quand même les faits qui se sont déroulés.
Oui, bah oui, on l'a dit.
Kevin Harvick,
il a patienté un bout de temps, le nombre de deuxième place, on les compte plus.
Oui.
Mais je rappelle juste les faits. Si quelqu'un a coupé la première partie, il arrive à la seconde partie, tiens, hop, je sais de quoi on parle.
C'est ça.
On fait déjà des émissions de 50 minutes et à Louis, il fait du replay pendant l'émission.
Oh là 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 là. Et tout ça sans montage, quoi, c'est beau, quoi. Ah, mais c'est pas grave, on t'aime quand même, Aloïs.
L'information c'est number one pour la NASCAR.
Ouais, donc l'information number one, c'est que Kevin Harvick a gagné sa première course à Pocono après 38 tentatives. Ok. Il gagne devant Denny Hamlin, Arik Almirola, Christopher Bell, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Donc les quatre, enfin quatre pilotes Gibbs dans le top 6, enfin, ou affiliés. 7e Clint Bowyer, 8e Michael McDowell, 9e Brad Keselowski, 10e Chris Buescher. Et la déroute Chevrolet sur cette première course, puisque Matt Kenseth, le premier, est 11e. Ricky Stenhouse Jr., le 2e, et 17e.
Non, t'as oublié William Byron en 14e place.
Ah, pardon, j'ai oublié Byron, oui, excuse-moi, j'ai sauté une ligne. Effectivement, donc bon, ils étaient 3 dans le top 17. Bref, ce qui est quand même pas fameux. Merci de m'avoir rattrapé comme t'as pu, Aloïs.
Bah, je t'en prie. Pour une on est number one sur l'information NASCAR.
Ouais, bah oui, bah, mais toi t'es number one sur l'information en replay, mais. Mais effectivement, voilà, Chevrolet qui s'en est pas sorti. Et finalement, sur cette première course, très peu de gros pilotes au tapis. Dans le sens où il fallait quand même conserver la voiture pour le lendemain, on réutilisait la même voiture, le même châssis, le même moteur, et il n'y avait aucun changement dans le bloc moteur. S'il y avait eu des essais, c'était les soupapes qui étaient prévues d'être changées entre les deux courses.
Ouais, il y a juste eu Joey Logano qui a un petit peu galéré.
Joey Logano, oui, mais du coup, certains sont partis de l'arrière du peloton parce qu'il y a eu des changements de transmission et de moteur. Certains ont préféré prendre les devants et assurer le coup. Et Eric Jones, quand même, pilote Gibbs, qui s'est planté, accident, après 70 tours.
On donc, en voit bien comme il faut, oui.
Donc, oui, et correctement.
Et en parlant des pilotes qui ont été rétrogradés à l'arrière du peloton pour la seconde course, on peut quand même noter que le poleman de la seconde course, Ryan Preece, a été rétrogradé en fond de peloton.
A été rétrogradé. Ta liaison, elle est encore pire que la mienne de tout à l'heure. Mais effectivement, il a été rétrogradé et à noter que ça fait deux fois cette saison qu'on inverse le top 20 pour établir la grille de départ de la course d'après. Ça fait deux fois que c'est Ryan Preece qui hérite de la pole.
Ça aurait pu être mon gemme.
Effectivement. Donc voilà. Et qui est-ce qui était parti de l'arrière du peloton? La 24, la 37 pour des changements de transmission, donc Ryan Preece et William Byron.
La 20
c'était pour des changements de moteur. Les transmissions, c'était la 78 et la 9 donc la 9 de Chase Elliott. Et la 78, de mémoire, c'était BJ McLeod. Et pour utilisation du voiture de réserve, c'était la 00, la 48. Non, la 8, pardon. La 20, la 22 et la 88. Donc. 88 Bowman, 22 Logano, 20 Eric Jones, la 8 le rookie Tyler Reddick et la double 0 de Quinn Houff, aussi un rookie.
Et du coup, pour la deuxième course, bah, ça leur a pas tous réussi de partir du fond de grille.
Non, ça a pas réussi à tout le monde. Et on a eu une course beaucoup plus nerveuse, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais très nerveuse sur les deux premiers segments parce qu'on avait quand même l'impression, pour ceux qui l'ont vécu en direct, que ça pouvait s'arrêter à tout instant. Et une fois qu'on est rentré dans le dernier segment, finalement, on a eu une vraie course de Pocono, calme, fluide, avec des dépassements, mais finalement, sous drapeau vert.
À peu près, oui.
C'est ouais, vrai. Encore des drapeaux verts, ouais. Des dépassements sous drapeau vert, ouais, si on veut.
Bah, lors du premier.
Pas pour la tête, mais.
On a eu quand même eu les crashs de Michael McDowell, Christopher Bell, Kyle Busch, et je crois que je n'oublie personne. Si, Chris Buescher s'est également mis à l'envers en fin
de course.
Ah si, si, et puis t'as oublié, il y en a un qui s'est crashé pour la 9e fois de la saison, c'est la pluie quand même, hein. 50 minutes de crash. Hein.
Oui, c'est vrai, la pluie. Le grand gagnant de cette reprise.
Le running gag de l'année, quoi. Honnêtement, je crois que celui qui va pronostiquer la pluie cette année, il va réussir à faire 40 points, quoi. Faudrait peut-être qu'on fasse ça d'ailleurs quand on voit l'état des pronos, hormis Aloïs. Ça nous permettrait peut-être de remonter.
Mais par contre, c'est pas ce que vous en pensez, mais après une petite traversée du désert, Denny Hamlin est redevenu le roi de Pocono.
Ouais, parce que
c'est vrai qu'il y a eu un passage à vide. Ouais.
Il y a eu un passage à vide et Denny Hamlin, 6e victoire à Pocono, il égale Jeff Gordon au rang des pilotes les plus victorieux à Pocono. Donc c'est aussi à noter, ça fait quand même partie des pilotes qui ont dominé à Pocono, mais c'est vrai qu'il avait eu une domination sur une courte période, notamment à son début de carrière. Il avait, il avait un truc incroyable à Pocono, il s'en sortait.
Bah, j'ai les stats sous les yeux. Première course, première pole, première victoire.
C'est ça. À Pocono. Il gagne les deux premières courses de Pocono de mémoire.
Ouais, et les deux premières courses en 2006, c'est pole victoire.
Oui.
Et en 2007, il fait 6e, 3e. Et la première course de 2008, il fait 3e.
Oui,
donc
oui.
En gros, tu fais 5 top 6 sur tes 5 premières courses à Pocono.
Il y avait ce petit truc en plus avec la Gibbs à cette période-là. Donc, enfin, voilà, il était au-dessus. Il a toujours été globalement très bon à Pocono. Il y a eu des moments où il était pris dans des accidents. Il y a eu des problèmes aussi. Mais je me souviens d'une course. Je me demande s'il ne va pas la gagner en partant de l'arrière, en ayant une pénalité dans les stands et en ayant je sais plus quoi.
Un pénalité dans les stands, le spin and win, je ne sais pas si c'était à Pocono.
Ah si, pour moi, il y a un
spin and win à Pocono. Si, à Pocono, si.
Si, si, c'est possible, mais je ne voudrais pas te dire laquelle course, peut-être en 2009 à 2010.
Mais il le fait une année à Pocono, c'est sûr. C'est
Et en tout cas, depuis l'année dernière, c'est 6 premiers, 2 premiers.
Ah oui, bah, c'est pas mal. Hein. C'est après, ne pas pronostiquer Denny Hamlin à Pocono, c'est aussi un peu suicidaire. C'est globalement une valeur sûre. Un peu comme un Kevin Harvick à Phoenix. Même si ça gagne pas à chaque fois, tu sais que globalement, Kevin Harvick à Phoenix, ça fait top 10.
Mais dis-moi, Geoffroy, alors...
Moi ?
Pourquoi vous n'avez pas pronostiqué Denny Hamlin à Pocono? Parce que vos pronostics, ils tirent un peu la tronche. Hein.
Mais parce que j'avais envie de le pronostiquer ailleurs, que...
Bah, moi, c'est déjà fait.
T'as aussi des pronostics à droite à gauche qu'il faut savoir faire. On a voulu varier.
Ah non, Hamlin, non, j'ai pas fait.
Et puis voilà, mais... Après... Toi, t'as choisi la facilité... Nous, non, la difficulté.
La facilité, comment ça?
Comme dit, hein, c'est à la fin de la saison qu'on verra qu'on a eu tort. C'est bien dit, c'est bien amené.
C'est bien
vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Donc voilà un petit peu pour Pocono. Messieurs, avant de parler d'Indianapolis, à la toute fin, si on donnera les horaires d'Indianapolis, puisqu'on les a pour la NASCAR, je voudrais quand même revenir sur Pocono, deux petits sujets qui en fait n'en sont peut-être qu'un. Le premier, Lilian, c'est pourquoi?
Ah, pourquoi quoi? Je pense savoir, mais...
Bah, pourquoi? Pourquoi du PJ1 à Pocono? Il n'y en a pas besoin.
Surtout qu'ils n'en mettent pas sur la trajectoire intérieure. Hein.
Bah non, parce qu'ils en mettent sur la trajectoire extérieure.
Ah ouais, mais ils vont pas dessus.
Bah oui, personne ne va dessus parce que la trajectoire préférentielle, c'est l'intérieur, en fait. Ils veulent qu'on ait du 2 de front partout.
Ils y vont pas parce que c'est de la merde.
Oui, simplement. C'est de la merde. Et que c'est pas à Pocono. Pocono, dans les virages, globalement, t'es à l'intérieur. Tu doubles au freinage, mais tu doubles pas dans le virage. Tu fais pas du 3 de front, quoi. Ou alors, s'ils veulent du 2 ou 3 de front, ok. Mais tu mets des bris de moteur et t'es à 150 miles par heure maximum. Et tu te retrouves sur du taladega à Pocono. Et là, ouais, tu vas être à 3 de front tout le tour. Mais c'est pas le but non plus.
On parle de running gag avec la pluie, mais le PJ1 il est bien placé aussi. Hein.
Mais surtout qu'en plus à Pocono il n'y a pas besoin.
Mais on est d'accord, il n'y a pas besoin. Et en plus ils l'ont mis que sur le turn 1.
Non, le turn 2 aussi.
Le 2?
Ouais.
Dans le tunnel turn, ils en ont mis aussi?
Ah bah écoute, je vais essayer de reprendre les photos là que la NASCAR a mises. Mais moi, des plans que j'ai vus, je suis pratiquement certain. Que oui, il y en avait dans le tunnel turn. Donc, écoute, je recherche, mais là, je... Ouais. Et là, vu la tronche du truc, il y en a même dans le virage 3.
Quoi qu'il en soit, c'est pas nécessaire. Et comme tu dis, pourquoi? Pourquoi?
Bah oui, surtout que là, oui, ils ne sont pas allés dessus. Donc, ouais.
Non, il y en avait dans les 3 virages à Lewis.
D'accord,
ou,
ok.
Ou alors, je sais pas, ils avaient un stock à finir, et puis bah, ils l'ont balancé à Pocono.
Ouais, mais ils auraient pu le mettre à Indianapolis, quoi, histoire qu'on se fasse Harakiri. Ah,
tu penses qu'il va y avoir du PJ1 à Indianapolis?
Bah ouais, mais attends, il y a l'IndyCar derrière.
Oui, c'est vrai. Ah non.
Enfin non, il y a...
C'est
non,
pour... Ça, c'est qu'ils disent que l'adhérence, elle est réduite de 60%. Indianapolis, ça va pas le faire.
Ouais, pour le coup, l'IndyCar, elle est avant la NASCAR, mais...
Ah mais pas l'Indy 500.
Oui, pas l'Indy 500, mais... Mais bon, non, enfin, honnêtement, s'ils en mettent à Indianapolis, c'est la mort du petit cheval, quoi.
Ah non, mais c'est un meurtre assuré, hein.
C'est. Donc voilà, on était tous d'accord pour dire que le PG1 c'était de la merde, mais je voulais quand même vous entendre le dire. Et du coup, ça m'amène à ma seconde question, qui est une réflexion beaucoup plus générale suite à une remarque de Lilian pendant la, je sais plus quelle course, enfin pendant le week-end. Deux courses à Pocono, on le savait, enfin deux courses de Cup à Pocono en
Ah,
2 jours,
bien sûr ça.
c'était très osé du fait de la météo. Donc on a eu deux courses qui finalement se sont passées, on a eu 4 courses de série nationale, on a eu quand même beaucoup de pluie, on a eu du PG1. Est-ce que la NASCAR, elle a pas sorti le fusil, le bazooka, le F-18, je sais pas quoi, pour tuer Pocono? En NASCAR, en tout cas, j'entends.
Ah, en IndyCar, c'est déjà fait.
Oui.
Oh, je pense pas que la NASCAR décide de supprimer Pocono, parce que je pense que c'est quand même une piste que beaucoup de pilotes aiment.
Bah ouais, mais.
Mais ou alors, je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Le double header, c'est osé, on est d'accord.
Mais le
Sur
double
quoi?
header, c'est
Sur
bien.
quoi?
Enfin, les pilotes
Un point.
sont. Les pilotes ont aimé.
Ah oui, le concept du double header, c'est marrant. Enfin, on se marrait surtout parce qu'on savait que Pocono, la pluie, fin juin,
Oui.
c'était assez tendu.
Bon, on se marre encore, hein, d'ailleurs.
On se marre encore, on est d'accord. Mais pourquoi pas, tu vois, un double header de Pocono en plein milieu du chase, ou des playoffs? Moi, je dis pas non. Parce
Oui.
que t'es sûr
Non,
que
c'est
tu vas
clair.
avoir ta baston.
Ouais, mais attends. Tu crains déjà la pluie à Pocono au mois de juin. Tu la plains aussi au mois d'août. Je te rappelle que les playoffs, c'est septembre, octobre, novembre. Tu me les places quand, Pocono, là?
En
Bah, en
septembre.
entrée, hein.
D'entrée.
Septembre, c'est t'as beaucoup moins d'orages.
Tu fais. Ou alors tu fais finale de la saison régulière et ouverture des playoffs?
Pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas, mais au moins mettre Pocono, si tu mets un double header, histoire de pimenter un petit peu les choses, tu le fous pas en milieu de saison, parce qu'au final, les mecs, ils font plus attention à leur voiture, avoir un bon résultat, plutôt que d'aller de tout faire pour chercher la gagne. Et on a très bien vu que sur les restarts, où les pilotes font déjà tout ce qu'ils font pour choper 1, 2, 3, 4 places, tu les mets à une position du calendrier qui est importante. T'es sûr que tu vas avoir de la baston dans tous les sens.
Oui, là, on a
Mais
quand même senti un peu de retenue. Il n'y avait que 4 de front dans la ligne droite avant, quoi.
ah, moi j'ai explosé de rire quand j'ai vu Kevin Harvick sortir nonchalamment de sa voiture après sa victoire à la première course. On s'est dit, ok, il va chercher son pain ou quoi?
Oui, et il a dit qu'il ferait plus de burn tant qu'il n'y aurait pas de spectateurs.
Ah, ok, j'ai pas fait gaffe à ça, mais tout le monde a quand même pris soin de sa voiture et ça s'est senti sur la première course.
Eh ben
Ouais.
oui, c'est le problème, quoi. Ou alors faudrait imposer deux châssis et enfin deux voitures différentes pour Pocono, quoi.
Mais le problème de Pocono, je pense que plus. Il fut un temps où on disait 500 miles, c'est trop. Ok, on est descendu à 400 miles. Deux courses de Pocono sur saison, c'est trop. On va en faire des double headers. Ouais, ok. Mais le problème, je pense, initial de Pocono, c'est que c'est foutu en plein milieu des calendriers, au milieu de l'été. Alors c'est
Ah,
un
mais
problème pour
c'est
les
ce que
orages.
j'ai redit, tu veux le foutre quand sinon?
Mais soit en fin de saison régulière, soit pendant les playoffs. T'es quand même arrivé à mettre une course routière dans les playoffs. Tu peux bien trouver un moment pour mettre Pocono. Je suis désolé.
Non, 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 je suis complètement d'accord avec toi sur la piste, c'est plus pour la météo.
Et ils ont surtout trouvé le moyen de bouger les Daytona 400 du week-end du 4 juillet pour la dernière épreuve de la saison régulière.
Ah mais non mais je suis complètement d'accord. Un Pocono dans les playoffs, moi je signe.
Ouais, c'est
Entre
vrai.
non, on met la météo de côté, je signe.
Ouais.
Moi qui, enfin, j'ai quand on aborde le sujet, je prône toujours la diversité des pistes dans les playoffs plutôt que d'avoir 3 ou 4 à mile et demi, carrément.
Pocono, Darlington, Bristol au premier tour.
Ah ouais, là tu veux de la diversité, t'es servi, c'est clair.
Ah bah là, un minimum, quoi. C'est un.
Voilà. On veut que les playoffs soient, on va dire, un micro-championnat. Bah voilà, il faut un peu de tout. De l'ovale à plaque, du circuit routier, du
Ouais.
1 mile et demi, un 2 miles, du short track,
Ouais.
Pocono. Bah ouais, ouais, pour moi carrément.
Vous voulez vous marrer un petit peu?
Allez.
Oh bah vas-y, à chaque fois que tu ouvres ta bouche.
Regardez les précipitations sur l'année à Pocono.
Ouais, au mois de septembre, c'est le mois où il pleut le moins, c'est ça?
Alors, le mois où il pleut le plus à Pocono, c'est le mois de juin.
Ouais.
Il y a 40% de chances de précipitation par jour. En ouais, septembre...
C'est pas de la chance, là, c'est du risque. Hein,
Ah, oui, on est d'accord. Et en septembre, octobre, t'as un peu plus de chances comment dire, de neige. Et encore, vite fait. Mais t'es à 25%, enfin 25% de risque slash chance de précipitation en septembre.
Ouais, bah je te rappelle quand même qu'avec la NASCAR, risque de pluie égale pluie.
Oui. Et en tant que niveau des moyennes de précipitation, t'es au même niveau que le 26 septembre que le 6 juin. T'as ouais. Exactement la même moyenne.
Après, tu vois, l'avantage, c'est quand même au mois de juin, au mois d'août, il fait encore assez chaud dans l'atmosphère. Ça permet, on va dire, d'évacuer l'eau assez facilement, même si ça suinte à Pocono et qu'il a fallu sortir la disqueuse le samedi pour faire des trous dans la piste. Mais bon, globalement, ça sèche un peu mieux, je pense, qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre, où l'humidité est déjà plus présente. Si en plus, il faut lutter contre l'humidité, là, ça devient compliqué.
Tout ça pour dire qu'au final, si la NASCAR décide de tuer la sortie à Pocono, comme tu le supposes, Geoffroy, en l'état, c'est fait.
C'est même pas lui, c'est moi.
Ils sont dans la bonne direction.
Oui, c'est ça. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César quand même. C'est Lilian qui a dit ça. Et j'ai juste posé la question. Parce que pour moi, si la NASCAR veut tuer Pocono, finalement, elle s'y prendrait pas mieux. Et t'as rappelé tous les faits depuis le début à Loïs. T'es passé de 500 à 400 miles. T'es passé de deux courses à 8 semaines d'intervalle à deux courses à 24 heures d'intervalle. Bon, voilà, il y a des signes. Ça peut paraître étrange, mais peut-être que dans 3, 4, 5 ans, Pocono ne sera plus qu'un lointain souvenir en NASCAR.
Et ouais, c'est très bien triste.
Et à mon sens, ce serait dommage.
Les propriétaires du circuit sont indépendants.
Oui, la famille Mattioli.
Je pense que ça aussi, ça peut peser dans la balance.
Ça peut peser, sachant qu'il y a quand même des pistes comme Nashville qui tape au portillon. Et les deux, Nashville d'ailleurs.
Et supprimer un ovale aussi atypique que Pocono pour ajouter un mile et demi comme Nashville. Non merci.
Ouais, mais là tu ouais, prêches un convaincu.
Faudra un Iowa.
Mais je veux dire, tu veux de la diversité, pareil, tu parlais de la diversité en playoff, mais on t'a viré Dover quoi, enfin.
Oh,
on t'a mis. Vrai, oui, t'as failli dire putain. Ouais. Je te rappelle quand même qu'on a mis Dover en plein milieu du mois d'août à une date qui ressemble à rien. Alors cette année, ça va encore être un double header parce que l'épreuve du mois de mai va arriver la veille ou l'avant-veille de celle du mois d'août, du coup, comme au Michigan. Mais, enfin, c'est dommage, quoi. Pocono qui devient une date lambda.
Enfin, c'est la veille de Daytona, donc c'est l'avant-dernière course de la saison régulière.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même un petit peu important.
Oui, c'est un peu plus important. Mais bon, je trouve qu'en playoff, ça avait quand même un cachet autre qu'avant les playoffs. Je veux dire, Bristol en nocturne, pendant les playoffs, je pense que ce sera autre chose que Bristol de ces dernières années, où globalement, tout était joué.
À voir.
Donc, voilà. Voilà ce qu'on avait à dire un petit peu sur Pocono, messieurs. Pocono qui reste au calendrier pour l'instant. On n'a toujours pas le calendrier 2021. Mais bon, ce sera un scandale que Pocono disparaisse du calendrier. On est tous les trois d'accord pour le dire. On va revenir à Indianapolis, messieurs, histoire de boucler la boucle. Indianapolis, mais cette fois-ci en NASCAR, avec de vrais horaires connus, officiels, et qui vont encore faire plaisir à Lilian. Donc ce sont des horaires, encore une fois, que je donne, horaires avant la pluie. Hein. Donc ne me jetez pas des tomates.
Ne prends pas la passe, Geoffroy, s'il te plaît.
Ah non, mais maintenant, je vais être obligé de le dire, si tu veux. C'est les pilotes qui sont appelés aux voitures à 15h50 dimanche, pour une course à 16h, mais avant la pluie. S'il y a la pluie, on ne peut présumer de rien. Hein, on a 160 tours à faire à Indianapolis, ça fait 400 miles. On est parti sur 2h30, 3h à la louche. Donc s'il pleut, il faut qu'au plus tard, à 18h en heure locale, on soit parti. Donc en gros, ça fait du minuit en France. Voilà, pour se donner un petit peu la chose. Donc on a 2 heures de marge. Donc s'il pleut, faut que ça s'arrête à 14h30 heure locale, faut que ce soit fini. Hein. Sinon on est mort. Sinon c'est lundi.
Tu veux une bonne nouvelle, Geoffroy et Lilian par le même.
Ouais, ils annoncent de la flotte tout le week-end à Indianapolis.
Non, ils annoncent grand soleil dimanche à Indianapolis.
Ouais, tu mens.
Je préviens, on est mardi soir, comme tu le disais tout à l'heure, Geoffroy. Mais ils annoncent des orages à partir de lundi et pendant toute la semaine suivante. Avec un petit peu de chance, ou pas, les orages peuvent avancer d'un jour.
On verra.
Oh yeah. Oh, bon, on verra, on va évaluer ça en milieu de semaine, enfin même en fin de semaine. Mais de toute façon, c'est devenu un running gag, cette météo. Alors oui, je sais bien, on fait encore des émissions à rallonge, on parle que de météo, tu vois.
Tu vois un autre running gag?
Vas-y, ils ont prévu du PJ1, mais sur le muret des stands.
Les sponsors des courses.
Oui, ben Penske 150 pour la Xfinity.
Alors moi, c'est surtout celle de Cup qui m'a fait mal.
JMR Grand Prix pour l'IndyCar. Et la Cup, c'est... Attends, j'en ai parlé cette semaine. C'est Big Machine Sanitizer 400.
Ouais, en gros, Hand Sanitizer, c'est le gel hydroalcoolique pour se laver les mains.
Oui, mais quand tu regardes bien, quand tu as repris la NASCAR, c'était pour les héros, enfin pour les gens en première ligne. Après, tu as eu les Food City 500 à Bristol, où tu remerciais les gens qui travaillaient dans les supermarchés. Ce choix de mémoire, c'était les Supermarkets Heroes 500 presented by Food City. Donc oui, en fait, c'est une façon aussi de remercier et de toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans la lutte contre le coronavirus et de rappeler que bah, voilà, il y a ce virus qui traîne, cette pandémie, et que bah, voilà, tu glisses un petit message que...
Ah, je dis pas le contraire,
t'y penses, juste quoi.
Que les noms sont un peu marrants quand même.
Ah, mais enfin, il y a toujours eu des noms, des fois, assez loufoques de courses à Indianapolis ou autre. Hein. C'est un petit peu véridique. Et parfois, enfin, là, on parle du sponsor. Parfois, c'est aussi les trophées. Il faut être honnête. Il y a des moments, il y a des trophées à avoir. La planche de surf en Californie... Le homard à Loudon.
Oui.
L'horloge de grand-père.
L'horloge à Martinsville. Le trophée de. Le Hurley trophée pour Daytona 500. Enfin voilà, il y a des trophées marquants. Il y en a d'autres. Enfin, tu t'en fous, quoi. Tu vois le truc. Tu parlais de Nashville, la guitare.
Oui.
Que Kyle Busch avait détruite d'ailleurs en Busch Series à l'époque.
Ah, magnifique.
Donc. Voilà, le monstre à Dover aussi, et l'aigle à Pocono, histoire de boucler la boucle, et après on va s'arrêter là, parce que sinon on va se rendre compte qu'on a fait tout le calendrier.
On va encore dépasser de toute façon.
Oh bah, oui, non mais je compte même plus en fait, j'ai un timer à une demi-heure qui bip, mais je le relance quoi.
J'ai relancé deux fois.
C'est ça. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Indianapolis, ou sur Pocono, ou sur la NASCAR, sur l'IndyCar? On n'a pas parlé non plus, c'est vrai, on aurait peut-être pu dire un mot d'Alex Zanardi. On en avait parlé la semaine dernière, qui va encore subir une autre intervention chirurgicale, une nouvelle intervention au cerveau. Toujours dans un état critique, pas plus d'informations à ce jour. Il continue de se battre. Voilà, c'est une information que j'ai vu passer là pendant l'émission, on n'en avait pas parlé. Voilà, quand même dire un mot sur Alex Zanardi, qui a quand même été une figure importante du kart, de l'IndyCar au sens large, et même après le coup de l'endurance aux États-Unis après son accident du Lositzring en 2001. Donc je pense qu'on a fait tout le tour, j'ai bien plombé la fin, vu comment vous vous taisez, magnifique, vous voulez pas enchaîner, ça me plaît.
On a fait le tour de l'Oval d'Indianapolis au final. Hein.
C'est ça, on a fait les 4 virages.
On a fait les 4 miles, les 2 miles. Ouais.
C'est ça.
Et comme un certain Andretti, on arrive à la bourre sur la ligne finale.
C'est ça.
Merci à Loïs.
Merci.
C'est un plaisir.
Oui, je sais, c'est un plaisir, c'est vrai. Sur ce, messieurs, on se donne rendez-vous ce week-end pour suivre les courses. En espérant que cette semaine, la pluie ne vise pas le virage 4, parce qu'il y a vraiment un virage 4 à Indianapolis, contrairement à Pocono. C'était une petite blague sur Twitter, je ne sais plus qui, je crois, NASCAR, mais voilà. Rendez-vous ce week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer tout ce bazar. Merci à toutes et tous d'avoir écouté, bonne semaine, bye bye.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.